voix nue. Cette semaine, Raphaël Rérol rencontre Françoise Mouly. Ce soir, dans les coulisses du New Yorker.
Bonsoir Françoise Mouly.
Bonsoir.
Nous sommes ce soir ensemble encore pour 30 minutes à peu près, chez vous à Paris, pour parler de votre vie, de... comment dire ça, d'égérie ou de... non, c'est pas exactement ça. Non, enfin bon, bref, dans votre rôle très très important dans le dessin et dans le, à la fois le dessin de presse, la bande dessinée aux États-Unis depuis maintenant plus de 30 ans. Et nous avons parlé à la fin de la dernière, du dernier épisode de ce magazine Raw que vous avez créé, dont le premier numéro est paru en juillet 1980. Raw, ça s'écrit R-A-W, ça veut dire cru, mais ça veut dire aussi brut.
Oui, et je crois que je faisais ça avec mon mari, Art Spiegelman. Je crois qu'il a choisi intentionnellement quelque chose qui m'était difficile à prononcer, parce que ça fait toujours rire quand il m'entend dire ro. Oui, ça veut dire brut, et puis c'était un nom avec une syllabe, et lui qui avait grandi avec Mad Magazine voulait un nom très court. L'intention de Raw, c'était de changer la perception, c'est-à-dire de mettre ensemble, de créer ce qui serait le sigle d'un mouvement, mais le mouvement lui-même n'existait pas, et en fait on a réussi à créer un mouvement simplement en donnant c'était intéressant. Alors, plutôt que d'écouter Art expliquer tout en venant ce que la bande dessinée pouvait être, comme il me l'expliquait à moi, comme il en parlait avec beaucoup de passion, parce qu'il venait de faire un livre, Breakdowns, des bandes dessinées qu'il avait fait jusqu'ici. Il avait fait une bande dessinée sur le suicide de sa mère, il avait fait une bande dessinée de 3 pages sur les expériences de ses parents, qui s'appelait Mouse d'ailleurs, qui était juste le prototype. Il avait fait une bande dessinée qui s'appelle Don't Get Around Much Anymore, qui était presque une page constructiviste entre le temps et l'espace et ce qui se passait. Il donnait des conférences sur l'histoire de la bande dessinée et il se passionnait chaque fois qu'il venait avec moi en Europe. Et aux États-Unis, il était en contact, il avait fait Arcade, qui est d'ailleurs le magazine avec le, qui m'a permis de le rencontrer avec Bill Griffiths. Il était a one-man band, une personne, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres dessinateurs qui étaient aussi branché sur le médium. Il connaissait l'histoire de la bande dessinée, ce qui s'était passé avec Rudolf Topfer en 1840, avec Winsor McCay au tournant du siècle. Et moi, ce que je voulais, c'était donner une preuve concrète de ce que j'entendais être dit et de ce qui pouvait être fait, plutôt que d'attendre que ce prophète des possibilités de la bande dessinée réussisse à convaincre tous les médias de New York, parce qu'il parlait aux gens du New York Times, il parlait à tous les gens qui connaissaient. New York Times ne faisait pas de bande dessinée, enfin il y avait très très peu d'endroits, et c'était très mal vu la bande dessinée, ça tombait dans l'oreille d'un sourd, et je me suis dit, mais moi... bon, je ne sais pas expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai pas ces dons d'orateur qu'a, parce qu'il est très charismatique, Art. Mais moi, j'aime bien faire des trucs. Je vais faire la preuve de... Je pouvais imaginer quelque chose qui serait très beau. Alors, j'ai voulu faire un format immense, un très grand, parce qu'il y avait cette idée que je voulais amener les gens à prendre la mesure des possibilités de la BD. Et pour ça, il fallait sortir de l'ordinaire. Alors l'ordinaire, s'il y avait des magazines de bande dessinée en France, comme Pilote par exemple, ou Fluide Glacial, d'abord les plus grands pilotes, ils avaient été assez grands, mais là je voulais encore plus grand. Et il y avait un discours avec Robert Crumb qui lui faisait Zap et tous les fascicules de l'underground, qui était un peu une dispute intellectuelle où il disait « Ouais, mais ce qui est bien dans la bande dessinée, c'est qu'on peut s'essuyer le cul avec. C'est un truc très anarchique. Alors lui, c'était plus tellement démocratique, c'était carrément anarchique. Et la bande dessinée, ça devait être imprimé sur papier journal. Le fascicule devait coûter 3 sous et être jetable. Et quoi que ce soit d'autre, il nous accusait à Art et à moi d'être prétentieux, de vouloir parler des possibilités d'art et de littérature au sujet de la bande dessinée. C'était à avoir un discours d'exclusivité et de se détacher du côté populaire. Du moins, c'était son accusation. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais que ça soit sur du beau papier, parce que je me disais, en fait, quand on va dans un musée et qu'on voit un tableau, il est mis en place avec un éclairage bien diffusé, avec la place autour pour qu'on passe son attention à une pièce à la fois, on le voit avec une certaine révérence, et c'est là qu'on découvre tout un tas de dimensions cachées. Et si c'était mis au détour d'un couloir, etc., on y ferait moins attention, on passerait moins de temps avec. Donc je voulais quelque chose qui vous force à prendre la mesure de l'excitation et de la beauté esthétique.
Et la puissance narrative aussi.
Et la puissance narrative,
tout à fait. Parce qu'au fond, est-ce que, Françoise Mouly, est-ce que cette espèce de changement de regard que vous avez forcé d'une certaine manière sur la bande dessinée, est-ce que ça n'est pas ça qui a donné ensuite les romans graphique,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose, c'était un concours de choses, parce qu'en même temps que moi mon désir c'était de faire cet objet imprimé, donc j'ai pris à charge toutes les contraintes, Art lui avait fini Breakdance, qui avait atterri sans faire aucun bruit d'ailleurs sur la scène du livre. Il n'y avait pas eu de critique de livre, personne ne l'avait lu, les exemplaires ne se sont pas vendus, enfin. Mais il démarrait son prochain projet. Il avait deux choix. Un, c'était faire l'histoire de sa famille, qui deviendrait Maus. Et l'autre, c'était faire l'histoire de la bande dessinée en format bande dessinée. Et chaque page serait sur un format différent. C'est un peu pour ça que j'ai acheté ma presse, parce que j'allais imprimer des feuilles papier journal, des petits fascicules. On allait faire tout un tas d'objets. On allait le raconter comme une boîte dans laquelle il y aurait tout un tas d'objets. Et chacun de ces objets serait créé par Art sous le format d'un. Ça s'appelait A Life in Ink, c'était la vie d'un dessinateur, et il serait passé par. Il était ami avec Picasso, il allait. Qui a fait des bandes dessinées d'ailleurs, gravé, et Juan Gris aussi, qui a contribué à des magazines. Enfin, c'était toute l'histoire de l'art moderne en fascicule. Mais il y avait le fait que l'autre projet, très prenants. L'autre projet dépendait un petit peu de demander des explications à son père, parce que son père lui avait déjà raconté l'histoire, mais il y avait des trous à boucher.
Je redis pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents que son père était un rescapé de la Shoah, le père d'Art Spiegelman. Et que c'est de ce processus de récit du père et puis de recherche, parce que je crois qu'il a quand même eu accès à des archives. Enfin, il a aussi fait tout un autre travail.
Tout à fait, tout à fait.
C'est de ça qu'est né Maus.
Maus est né peut-être du mandat que sa mère avait donné à Art en disant un jour tu raconteras mon histoire. Et elle avait laissé derrière elle un diary, un journal où elle avait écrit son histoire. Et quand Art a voulu, est devenu, mais elle s'est suicidée quand il avait 20 ans. Et quand il s'est décidé à faire, maintenant j'ai fini mes bandes dessinées expérimentales, je vais peut-être faire cette histoire. Il a demandé à son père et il a appris que son père avait brûlé le journal après le suicide de sa mère. Alors il y avait une espèce de
d'injonction.
Oh, d'interdit et aussi d'obligation, d'une certaine façon. Mais la seule façon de reconstruire l'histoire de sa mère, comme tout le monde, comme elle s'était suicidée et que tout le monde autour d'elle, très peu de gens avaient survécu, c'était de poser tout un tas de questions à son père.
Et que le père vieillissait.
Son père vieillissait, n'était pas en bonne santé. Il avait vécu pendant 7 ans à San Francisco, Art, mais elle était revenue à New York. Son père habitait à New York. Sa femme l'avait quitté, donc on avait besoin de s'occuper de lui. On passait du temps avec lui. Et puis la seule façon, Art était horripilé par son père. Hein. Et c'était une façon de passer du temps avec son père vieillissant que de lui demander des explications et des approfondissements de cette histoire. Et c'est ça qu'il a fait.
Et vous, Françoise Mouly, quel était votre rôle dans tout ce processus-là? Vous avez aidé vous avez...
Mon rôle, c'était de, je crois que, d'abord de former un couple stable avec Art, et qui lui a servi de base d'opération, et puis de lui donner une certaine vindication, parce que, bon, il avait toujours l'impression que son discours tombait dans l'oreille d'un sourd, mais là, moi, je disais, mais non, mais t'as entièrement raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, et on va en faire la preuve. Et la même chose avec Maus, où il avait cette ambition de lui dire bah, « Écoute, tu ne peux pas vraiment remettre à plus tard. Puis de toute façon, si ton père a besoin de toi, il faut qu'on s'occupe de lui. Il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on l'amène en vacances, il faut qu'on passe du temps avec lui. » Et puis aussi, parce que comme vous le dites, il y avait très très peu d'informations à l'époque. Hein, donc il a fallu qu'il fasse de la recherche. Et ce qui est intéressant justement avec la bande dessinée, c'était inconcevable à l'époque de faire une bande dessinée sur ce sujet-là. D'abord parce qu'on ne pouvait pas créer d'œuvres de littérature ou d'œuvres d'art ou en parler parce qu'il y avait cet interdit d'Adorno et puis qu'il n'y avait rien d'autre. Hein. Donc tout le monde s'était tu. Qui était Art Spiegelman pour lui prendre la parole. Et parce que j'ai avec lui rencontré tout un tas d'enfants de déportés qui ont une espèce d'interdit qu'ils ont pris de façon interne qui est je dois être gentil avec mes parents parce que après tout ce qu'ils ont souffert, hein, je vais pas leur créer des problèmes. Et pour Art, il y avait une question, surtout avec la pression de sa mère, il y avait une question de survie intellectuelle. Pour faire plaisir à ses parents, il aurait fallu qu'il devienne dentiste. Et il ne le pouvait pas, donc il voulait absolument à la fois se réaliser lui-même et quand même être à la hauteur de l'attente de ses parents. Et la seule attente qu'il a pu accepter, c'était celle de sa mère, qu'il raconte cette histoire, mais qu'il la raconte à sa façon.
Et donc, dans la première édition de Raw, je crois, hein, parce que je ne l'ai pas eu entre les mains, mais je crois qu'il est, et vous avez écrit « Je ne serai pas une artiste
». Oui.
C'est vrai, ça?
Alors, pour en finir avec Maus, c'est d'ailleurs en venant en France hein, qu'il y a eu le déclic hein, qui a permis de, en 1978 ou 79, ou en 1980, dans ces eaux-là, quand tout était en train de se jouer plus ou moins et que moi j'avais ma presse, mais j'avais envie de commencer Raw. Art était entre ces deux projets. Jacques Tardy, avec lequel on était devenus amis, parce qu'on est devenus amis avec tout un tas de dessinateurs qu'on rencontrait, dit ben, « il y a Mougin qui commence un magazine pour Casterman qui s'appelle « À suivre hein, » et qui avait encouragé Tardy, a beaucoup encouragé Art. « Non, mais non, il faut que tu fasses l'histoire de tes parents. Enfin, c'est, le reste, ça viendra plus tard. Hein. » Et d'ailleurs, tiens, je te présente à Mougin, et comme ça sera super pour ce nouveau magazine pour à suivre. Donc Art a fait un narratif, hein, du début jusqu'à la fin, de quelle allait être l'histoire de Maus, que j'ai traduit en français. Je me souviens taper ça sur la machine à écrire de mon père, hein, dans son bureau, quand les malades n'étaient pas là, pour donner ça à Mougin, qui a dit « c'est très bien, bon, d'accord ». Et Tardy était très fier de lui, etc. Ça allait démarrer avec le magazine. Il fallait que Art en fasse 10 à 12 pages par mois. Alors, il a commencé à faire le premier chapitre. C'était un peu en avance du début du magazine. Il fallait qu'il en accumule plusieurs chapitres. Et le premier chapitre, ça a pris bien plus qu'un mois simplement pour trouver la façon de faire et raconter l'histoire. Et très vite, il s'est rendu compte, je ne vais pas pouvoir aller à ce rythme-là. Il y a tellement de recherches à faire. Puis aussi, quand on fait ça en bande dessinée, ce qui était vraiment inconcevable, aux États-Unis certainement, il y a un devoir de recherche visuelle. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il représente la rue où ses parents avaient grandi. Il fallait qu'il représente...
Le camp.
Certainement les camps de concentration, les conditions de vie, les chiottes, enfin tous les détails de la vie. Il fallait qu'il se renseigne à un niveau, il fallait pratiquement qu'il revive, pas d'une façon distante, mais d'une façon on ne peut plus concrète, parce qu'il fallait qu'il le dessine, il fallait qu'il dessine où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on voit, quelle est la perspective qu'on a. Pas ce à quoi ressemblaient les gens, parce qu'il avait ce parti pris dès le début de les représenter en souris, ce qui lui a beaucoup, beaucoup servi, parce que toute la façon dont il différencie les personnages, hein, c'est pas parce qu'ils ont des oreilles décollées ou des yeux cernés, etc., mais c'est par l'expression et par la façon dont le corps se tient. On reconnaît le grand-père, on reconnaît le père, etc., même à travers les âges, même à travers des habits différents. Moi, je suis toujours représentée avec quelque chose à rayures et un petit foulard, mais une attitude, presque un cartoon, bien sûr, mais un symbole de l'expression de la personne. Et il y a les signes. Aussi, il faut que chaque personne soit reconnaissable et aussi que ses émotions soient reconnaissables. Alors tout ça, c'était extrêmement compliqué de mettre tous ces éléments en place, y compris la recherche, parce que la recherche, il y avait beaucoup de livres à lire. Alors Art a sorti tout un tas de trucs en bibliothèque, fait des recherches. J'ai lu la plupart de ceux qui étaient les plus importants pour lui, pour pouvoir comprendre ce qu'il comprenait lui et pour pouvoir voir. J'ai fait les voyages en Pologne avec lui. Et aussi, en publiant Raw, j'ai dit, bah, écoute, on va se mettre au bain de tes besoins de publication. Donc, je me suis retrouvée, on n'avait pas ça dans le premier, mais dans le deuxième, à partir du deuxième numéro. Comme moi, j'avais démarré sur un numéro qui était très grand, parce que, justement, c'était pièce de musée, mais qu'au contraire, pour Mouse, Art avait un seul truc qu'il voulait, c'est que ça soit publié à la taille où c'est dessiné. Parce que la plupart du temps, les dessinateurs dessine à 150% de façon à ce que quand ça soit réduit, ça réduise les imperfections et ça peaufine la courbe, le trait, etc., devient un petit peu plus chiadé grâce à la réduction. Et lui, il voulait pas ça. Il voulait qu'il y ait ce sentiment d'être dessiné comme manuscrit, comme si on lisait l'écriture de quelqu'un, que ça garde son intimité. Alors, je ne pouvais pas élargir non plus, parce que ça donne un côté plus graphique, plus design, quand c'est élargi. Donc, on a fait Mouse en petits fascicules qui étaient à la même taille à l'intérieur qu'on a agrafé à l'intérieur de Raw. Mais ce n'était pas grave, parce que de toute façon, dans Raw, ce que je voulais garder, et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Alors, vous parlez d'une bande dessinée que j'ai faite dans le premier Raw, je disais, je ne vais pas être artiste. Et là, j'arrive à en parler maintenant parce que j'ai un regard en arrière, mais au moment où je fais quelque chose, c'est pas comme si je sais à l'avance qu'est-ce que je vais faire, parce que ce qui m'intéresse, c'est justement ce processus de découverte.
Sauf que vous l'avez dit à ce moment-là.
Mais j'ai fait cette page justement pour trouver ce que j'étais en train de faire. Ce que j'étais en train de faire, c'était de mettre en page tout un tas d'autres choses. Et si je suis pas, ce que je n'allais pas être, c'était l'artiste qui allait signer tout de mon nom. C'est-à-dire que je n'allais pas faire comme mon amie Stéphanie, après prendre des diapos de mes œuvres que j'allais essayer de montrer dans des galeries. Parce qu'aux États-Unis, c'était cette chose d'évoluer maintenant dans un nouveau langage avec l'anglais. On peut mettre ça sur sa carte de visite. Hein. On peut mettre Françoise Mouly, artiste. Moi, j'ai eu des artistes qui m'ont donné une carte de visite du remarqué artiste. Alors moi, je leur explique qu'en France, on peut dire qu'on est peintre, on peut dire qu'on est sculpteur, hein. Mais artiste, c'est une appellation que quelqu'un d'autre vous donne. C'est comme si on mettait « je suis
génie ». Intermittent du spectacle.
Tout à fait, oui. Donc, oui, sauf au sens d'actrice, mais c'est plus un qualificatif qu'une raison d'être. Donc moi, je me sens très confortable avec cette étiquette d'artisanal, de fait main, de quelque chose que je peux contrôler, mais qui n'a pas cette distanciation d'être une œuvre d'art avec un A majuscule.
Mais Françoise Mouly, après que vous avez parlé longuement et très bien de la conception de Maus d'Art Spiegelman, quand même, inévitablement, on se demande, est-ce qu'elle s'est dit qu'il ne pouvait pas être deux artistes ? Je me suis dit, bon, au fond, vous étiez dans le faire,
oui.
dans cette mm-hmm. voilà, dans cette, mm-hmm. cette, et dans la mise en scène
oui.
du travail des autres, mm-hmm. quand même, parce que
oui.
c'est ce que vous avez
tout
beaucoup fait.
Mm-hmm.
Mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, au fond, on ne peut pas être deux, avec les guillemets que vous avez mis, artistes ? Il faut qu'on... On va se marcher dessus.
Non, je ne me suis pas posé cette question-là parce qu'on était dans la redéfinition de ce que pouvait être la bande dessinée, de ce qu'était l'art. Est-ce que la bande dessinée, c'était de l'art ou c'était pas de l'art ? Ou est-ce que l'art n'était que ce qui était montré dans les galeries de Soho ? Et moi, c'était un petit peu compliqué, mais je n'avais pas besoin de le dire. Je sentais, et je crois que je m'y reconnais, que mon art, mon domaine, c'était justement la fabrication, la mise en scène et le magazine lui-même, c'était mon œuvre d'art. Mais pas comme ce qu'il y avait à Printed Matter, où c'était un livre d'artiste, hein, parce que ça restait un objet qu'on mettait sous verre et auquel il ne fallait pas toucher parce que c'était fragile. Au contraire, avec le magazine Raw, par exemple, je voulais que ce soit un objet d'art dont on déchirait le coin, parce que tous les numéros de Raw, je me suis débrouillée pour qu'il y ait une partie faite main. Mais alors littéralement à la main, non seulement c'était sur ces grosses rotatives et chez les relieurs, etc. Mais dans le premier numéro de Raw, j'avais imprimé des cartes sur ma petite presse, parce que Raw était trop grand pour que j'imprime sur ma petite presse, mais j'avais imprimé des petites cartes. Et à la main, on en avait fait des paquets des jeux de cartes. Et on avait mis ça dans un sachet avec un bout de chewing-gum agrafé à la main. Donc, j'ai touché, moi et mon équipe, je faisais venir les artistes et Art et ma sœur et tout le monde que j'avais sous la main, et mes amis qui voulaient bien passer. Je faisais des work parties. J'achetais beaucoup de Coca-Cola et des cheese doodles, parce que j'aimais bien ça. On se retrouvait tous ensemble et on prenait chaque exemplaire, et dans un on mettait un sachet avec les cartes, dans l'autre on déchirait le coin, dans l'autre on mettait une section spéciale, avec Jimbo on faisait ça dans un truc cartonné, et ce qu'on mettait en vente ça coûtait $5, alors à l'époque $5 c'était cher, ça serait l'équivalent de je sais pas $15 ou $20 maintenant, mais c'était quand même abordable, c'était pas $10,000, c'était quand même quelque chose qui pouvait se trouver en magasin, en librairie, et ça permettait à tout un chacun d'avoir quelque chose qui avait été touché, qui avait des traces de doigts, il y avait des empreintes digitales dessus.
Ce qui est quand même l'approche de l'œuvre, l'œuvre unique.
Oui,
car chaque empreinte est disponible.
Ouais. Oui, donc peut-être une des choses que j'essayais de définir, c'est qu'est-ce que artiste voulait dire. Pour moi, c'était aussi cette partie de mise en scène. Mais je trouvais que la somme... Je m'étais posé la question et j'avais... découvrant tant de potentiel et de possibilités après avoir rencontré Art, après avoir rencontré tout un tas d'artistes en Europe et des artistes aux États-Unis, il y avait tant à faire dans ce domaine-là, ça me paraissait un calcul très concluant, que si j'allais mettre ensemble les œuvres des autres, j'arriverais à un aboutissement beaucoup plus rapide, de créer quelque chose d'intéressant qui y aurait justement beaucoup plus que si j'allais faire une seule page qui serait mon propre truc, que je pouvais faire plus en mettant ensemble l'énergie créative de tout un tas de gens. Ce qui était important pour moi et ce qui m'a guidée et qui m'a beaucoup servi toute ma vie, c'était que j'étais entourée d'artistes, justement, alors soit comme Stéphanie qui gagnait sa vie en travaillant sur un bateau, mais qui essayait de montrer ses œuvres dans une galerie, ou qui faisait des demandes de bourse. Il te faisait au National Endowment for the Arts, etc. Et moi, je voulais dissocier ça, je voulais gagner ma vie, faire mes trucs, mais ne pas avoir à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, tout ce que j'ai fait, c'était dans les moyens, avec les moyens du bord. D'abord, on n'a jamais dépensé énormément. Je prenais des imprimeurs qui étaient très bien, mais j'y allais la nuit ou le samedi. Enfin, je faisais tout moi-même que je pouvais faire. J'ai jamais payé les taux officiels. J'ai toujours payé en cash pour faire les trucs après les heures de bureau. Je faisais les boîtes moi-même et la diffusion moi-même. Et ça m'a donné une autonomie où je me suis jamais endettée. J'ai toujours augmenté ma circulation, mais avec les revenus du numéro précédent. C'est-à-dire que j'ai publié une carte de Soho, qui était un truc commercial, oui. Par contre, où je mettais tous les magasins et je leur faisais faire des listings. J'ai fait ça pendant 13 ans, mais je le faisais une fois par an. Ça me prenait 3 mois par an et je gagnais suffisamment
pour tenir tout le reste de l'année.
Pour tenir tout le reste de l'année et pour payer ma presse et tous les autres trucs d'impression. Et avec Rose, je rentrais dans mes frais. Et le surplus allait à augmenter la circulation du prochain.
Mais alors, juste une petite question, et puis après on devra se séparer jusqu'à demain soir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au bout de tant d'années, et alors que le tirage était très bon, puisque vous avez dit que c'était dans les 15 000, qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté ?
Plusieurs choses. Il y a fait la longévité, c'est-à-dire qu'après avoir fait ce magazine, puis je faisais des numéros spéciaux sur l'Afrique du Sud, avec Souko, sur Jimbo... Je ne voulais pas me répéter, j'avais quand même accompli pas mal en 10 ans, et puis j'approchais de mes 30 ans, et je commençais à penser à l'idée d'avoir des enfants. C'est pas difficilement compatible, mais je suis tombée enceinte et Nadja, notre fille aînée, est née en 87, j'ai arrêté Ro au moment où notre deuxième enfant est né en 91.
Nadja, avec laquelle vous vous entretiendrez, pas demain, mais après-demain. Voilà, ce sera une innovation dans la voix nue, ce sera un débat pour une fois. Très bonne soirée, je vous remercie, nous nous quittons et nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir Françoise Mouly.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Rérol avec Françoise Mouly. À voix nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.